Chers amis, comme on le dit en Suisse, et je vois que c'est une habitude qu'on a maintenant au Québec, on arrive toujours, on commence toujours un quart d'heure en retard. On appelait ça en Suisse le quart d'heure vaudois. C'était pour laisser les Bernois arriver. Notre province. Bon. Plusieurs ne seront pas là pour l'introduction ce soir. Alors, nous ne faisons pas la première soirée, nous n'entrons pas en plein dans notre sujet pour ne frustrer personne. Nous attendrons à demain matin, c'est demain matin, et que nous commencerons vraiment notre étude de la seconde épître aux Thessaloniciens. Pour ceux qui sont nouveaux et qui ne le sauraient pas, nous commençons toujours par la bienvenue. Et cette bienvenue, c'est pas à nous et qui vous la souhaitons, mais le Seigneur Jésus-Christ. Alors moi, je m'asseye aussi, et puis je vous dis ce que le Seigneur m'a montré comme mot de bienvenue pour cette dernière retraite de l'année au manoir Dieuville. C'est une parole du Christ glorifié. Il nous parle ce soir du sein de la gloire. Après avoir passé sur cette terre où il a accompli d'une façon parfaite l'œuvre de notre salut. Dont les grands faits, vous les connaissez, sont sa naissance dans un corps d'homme, mais conçu du Saint-Esprit, dans le sein de la Vierge Marie. Nous y croyons de tout notre cœur à cette conception miraculeuse. Nous ne l'expliquons pas, mais nous nous courbons devant cet amour infini d'un Dieu qui, pour parler aux hommes, a voulu être un homme et s'approcher d'eux comme un homme. Et connaître ainsi l'homme dès sa naissance. Quand je pense qu'il a accepté d'être formé quant à son corps dans le sein d'une femme, comme l'affirme l'Écriture, nous sommes bouleversés. Nous ne pouvons pas raisonner. Vous pouvez rejeter cela, mais pour l'accepter, que faut-il faire? Faut croire. Quand je crois, alors je comprends. Et en croyant, je comprends, et cette compréhension me jette à ses pieds. Je tombe sur ma face et j'adore. Un Dieu si grand, si élevé, qui accepte de devenir sans forme, ou une forme tellement minime dans le sein d'une vierge, elle est formée 9 mois. Et il était pourtant le Fils unique et éternel de Dieu. Alors donc, il est venu. C'est son premier avènement. Et il venait pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et cette œuvre, il l'a parfaitement accomplie. Il n'est pas venu seulement nous apporter des paroles, parce que nous ne sommes pas sauvés par les paroles du Christ. Qu'est-ce qui nous sauve? C'est sa mort. Il est mort. Et dans sa mort, nous avons pu voir ce qu'était l'homme qui a pu contempler l'être qui recevait en toutes choses l'approbation de Dieu. Quand les hommes ont vu un être que Dieu pouvait approuver en tout, disant de lui, au baptême de Jean, c'est mon fils, bien-aimé, en qui je mets tout mon plaisir. On a pu le voir. Allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Et on n'a pas pu supporter sa présence. Les hommes l'ont rejeté. Ne dites pas que ce sont les Juifs. Oui, le peuple juif ne l'a pas reconnu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont livré à qui? Aux Romains. Aux païens. Qui l'ont exécuté alors qu'ils auraient dû le protéger selon la loi. Alors, juifs et romains sont coupables de la mort du Christ. Et que pouvait faire Dieu pour son fils? Lorsqu'il était sur la croix, il n'a rien fait pour lui. Quand il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a pas eu de réponse du ciel. De sorte que les hommes qui passaient par là pouvaient croire que vraiment Dieu l'avait abandonné. Et ils se moquaient en disant, puisqu'il l'aime, puisque Dieu l'aime, ben qu'il le délivre maintenant. Il ne l'a pas délivré. Pourquoi? Parce que s'il l'avait délivré, nous serions tous perdus. Il est mort pour nous racheter. Le salaire du péché, c'était la mort. Lui n'avait pas péché. Et pourtant, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il l'a voulu. Il dit, personne ne peut me prendre la vie. Je la donne de moi-même. De sorte que tous ceux qui ont écrit pour définir la cause médicale de la mort de Jésus, dans l'erreur. Je dis ça très humblement. On n'a pas à expliquer la cause de la mort de Jésus. Il ne devait pas mourir. Si quelqu'un ne devait pas mourir, c'était Jésus. Il était sans péché. Il est mort. Parce qu'il a donné sa vie. Mais il avait le pouvoir de la reprendre. Alors, il l'a repris et c'est le grand fait de sa résurrection que nous soulignons encore. Sa naissance, sa vie sur la terre, ses paroles, sa mort, et sa résurrection. Et alors maintenant, où est-il? Et c'est cela que vous devez recevoir ce soir. Dieu l'a pris auprès de lui. Il est remonté au ciel d'où il était venu. Et ce qui m'a bien frappé, c'est que, au mois d'octobre, dans la retraite que nous avions, la parole de bienvenue que le Seigneur nous a donnée, c'est la parole qu'il a dite aux siens la nuit qu'il fut livré, peu avant de l'exister. Et je la rappelle, cette parole du Seigneur dans l'évangile de Jean
au chapitre 14. Le Seigneur nous a reçus en nous disant que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi. Et il ajoutait, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi avec moi. Alors, la parole de bienvenue que nous avons entendue au mois d'octobre, vous vous en souvenez, cette parole de Jésus, je reviendrai. Est-ce que vous y croyez? Parce que il disait, si vous croyez en Dieu, et je pense que vous croyez en Dieu, puisque vous êtes là, vous y croyez, mais croyez aussi en moi. Les paroles de Jésus sont aussi sûres que les paroles de Dieu lui-même, du Père, parce que Jésus est Dieu lui-même. Alors, si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et ce que je vous dis, c'est que je m'en vais auprès du Père, dans ses aimables demeures, là je vous prépare une place, et je reviendrai. Et c'était une heureuse espérance qu'il mettait dans le cœur de ses disciples. Est-ce que c'était quelque chose qu'il pouvait croire avec certitude? Je reviendrai, vous direz, mais il l'a dit il y a si longtemps et il n'est pas revenu. Mais les promesses du Père, il y a des siècles qu'il les avait faites, mais autant convenables, est-ce que s'il avait promis que la puissance de Satan serait écrasée par la semence à postérité de la femme, qu'il la blesserait au talon, mais lui écraserait sa tête. Est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que Jésus est né? Oui. Mais qui l'attendait? N'était pas nombreux. Ceux qui avaient gardé cette espérance dans leur cœur, l'espérance d'Israël, le Messie qui devait venir. Eh bien, les promesses de Dieu se sont réalisées et Jésus leur dit, bien, vous qui connaissez les promesses de Dieu, et savez qu'elles ont pu se réaliser, croyez aussi en moi. Et quelle était la promesse qu'il leur avait rappelée, qu'il leur enverrait quand ils seraient montés auprès de son Père, il leur enverrait le Saint-Esprit. Est-ce que ça a eu lieu? 10 jours après, ça a eu lieu. Le Saint-Esprit est venu baptiser en un seul corps ses disciples qui étaient tous des individus dispersés. Ils ont formé le corps de Christ. Le baptême du Saint-Esprit a été donné pour l'unité du corps de Christ. Et c'est ce que nous voudrions pouvoir réaliser ici, dans cette fin de semaine. Que vous tous qui êtes venus, qui fréquentez un groupe, peut-être différent, vous puissiez réaliser ici, sur cette terre, nous sommes des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous l'avons reçu. Parce que nous l'avons accepté et que nous formons maintenant un seul corps. Et quel est notre lien? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous lie les uns aux autres. Je ne suis plus seul avec moi-même, mais j'appartiens au corps de Christ. Et si vous êtes vous, Christ, j'ai à vous considérer comme mes frères et mes sœurs et non pas des cousins éloignés ou des frères séparés. Nous sommes unis en Christ et ça nous voulons le rappeler. Et c'est pourquoi nous voudrions que vous vous sentiez à l'aise ici parce que vous n'êtes pas dans une église particulière, une communauté particulière, mais vous êtes un groupe de croyants qui appartiennent à des confessions peut-être un peu différentes sur certains points, mais qui aiment à se retrouver sur cette vérité centrale, le Christ, Fils unique de Dieu, révélation du Père, et qui a accompli sa promesse. Alors, il est venu sur la terre. Il nous a révélé le visage du Père. Est-ce que nous connaissons le visage du Père? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'est le Père? Encore aujourd'hui, je crois, ou hier, on me disait qu'il y a des milieux où on ne parle jamais du Père. Et ça, je l'ai entendu ici, il y a 20 ans, dans un milieu entièrement catholique, disait, ne parlez pas du Père au Québec, parce qu'on a un trop mauvais souvenir du Père. C'est déjà... C'était un théologien bien connu qui disait que c'est inutile de parler du Père aux Québécois. Ils ont un trop mauvais souvenir du Père. C'est le bâton. Ça m'a toujours frappé. Mais alors, si je ne peux pas parler du Père, de qui vais-je parler? Jésus, promet Jésus, oui. Jésus mis à toutes les sauces. Un Jésus mis à toutes les sauces, ça va encore. Hein. Mais Jésus, de qui parlait-il? De son Père. Il ne parlait de rien d'autre que de son Père. Il mettait toujours en avant son Père. Il disait, ce que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même, je l'ai entendu du Père. Et au bout de 3 ans, il pouvait dire à ce disciple qui lui disait, mais montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Philippe, je suis depuis si longtemps avec vous et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Et voyez-vous, si par Jésus-Christ vous avez appris à connaître le Père, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai un Père dans le ciel que je ne peux pas perdre parce qu'il est éternel. Mon Père est éternel. Et mon Père est bon. Donc je dois connaître la bonté du Père. Est-ce que vous connaissez quelque chose de la bonté du Père? En venant ici, est-ce que vous avez pu penser que Dieu était bon pour vous? La bonté du Père, sa sainteté aussi, qui n'est pas une sainteté repoussante, mais qui est une sainteté accueillante. Près du Père, on est gardé du mal. Est-ce que nous réalisons cela? Le Père nous garde du mal. Jésus parlait de son Père en disant, Père juste, Père saint, sanctifié par ta vérité. C'est quelque chose. Mes amis, vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi. Je reviendrai. Nous a-t-il dit le mois passé. Et aujourd'hui, nous savons où il est. Nous savons où il est monté. Il est monté auprès du Père, qu'il a glorifié. Il se trouve maintenant dans une gloire aussi élevée que son abaissement a été grand. Et son occupation, c'est d'intercéder pour nous et de nous préparer cette place. De sorte que j'ai pas besoin de faire un préarrangement. J'ai une place. Au cimetière? Bon, c'est pas la chose. Peut-être ma dépouille ira au cimetière. Mais où? Peu importe où je tomberai. Dans quel pays que ce soit. J'ai pas besoin d'être enterré à tel endroit. Je l'ai réalisé, je l'ai vécu dans ma propre vie. Dans certains deuils que j'ai dû connaître. Oui, on peut avoir un tombeau, je n'ai rien contre cela. Mais c'est pas là notre place. n'est pas la paix. Nous n'attendons pas la mort. Avec Jésus qui nous a parlé, il a dit que certains ne verraient pas la mort. Et peut-être que vous êtes cette génération-là. Vous ne trouvez pas que c'est intéressant? Ça devient peut-être passionnant. De ne pas passer par les humiliations du sépulcre, mais d'être en un instant transformé, changé. Quel bienheureux espérance. Eh bien, ce Jésus, il veut vous souhaiter une heureuse bienvenue, et à moi aussi. Alors, ensemble, il nous parle. Et j'ai mis le texte qu'il m'a donné. C'est un Jésus céleste, retourné dans la gloire, et qui s'adressait à la fin de l'ère chrétienne, à la fin du premier siècle de l'ère chrétienne, à l'église de Philadelphie. Et pareil, j'avais mis le verset 14, mais il y avait tellement de bruit quand j'écrivais que j'étais un peu troublé, mais mon cher ami Jonathan a remarqué la chose, on le lui a fait remarquer et l'a corrigé. C'était le verset 11. Je viens bientôt. Le Seigneur a de la suite dans ce sens. Je reviendrai. Et bien aujourd'hui, à la fin de cette année, je viens bientôt. Qu'est-ce que vous attendez pour bientôt? Je sais que beaucoup attendent un nouveau référendum. On décide. Mais on est au-dessus de tout cela. Je viens. Est-ce qu'on est un peu préoccupé par cela, que ça se pourrait, nous allions ailleurs. Alors, c'est plus question pour nous du Canada ou du Québec, mais nous aurions notre place. Nous occuperions notre place dans ce ciel. Mais ce ciel, est-ce qu'il a occupé une place dans nos cœurs? Est-ce que nous avons été préoccupés par celui qui nous a préparé une place dans le ciel? Est-ce que nous avons manifesté un caractère un peu céleste? Ou bien est-ce que nous nous sommes laissés politiser par les uns, par les autres, de telle sorte qu'il y avait de l'aigreur dans nos cœurs, ou de la déception? On a mis notre confiance dans les hommes, puis voilà, on est déçu. Qui dit une chose, elle arrive si Dieu ne l'a pas permis? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les mots et les dieux? Nous l'avons dit, le résultat de ce référendum pouvait être ou une bénédiction divine ou un jugement de Dieu. Comprenez-vous? Quel que soit le résultat, que ce soit non ou le oui, ça pouvait être un jugement pour les uns et pour les autres. Faut bien se souvenir de cela. On a souvent le gouvernement que nous méritons, que nous avons voulu. Alors, ça peut être une bénédiction ou une malédiction. Alors, mes amis, je suis heureux de pouvoir vous parler d'autre chose que de la politique et de sentir que nous pouvons être d'accord sur le fond. C'est Jésus qui nous parle et qui nous accueille et qui nous redit. Eh bien, je viens bientôt. Ne vous désespérez pas. Je viens bientôt. Puis qu'est-ce qu'il nous demande? Il y a en même temps, dans cette parole de bienvenue, un avertissement. J'aime beaucoup la façon dont Jésus nous parle. Il met une espérance merveilleuse dans nos cœurs. Je viens bientôt. Mais en même temps, il nous dit: tiens ferme ce que tu as. Ou garde ce que tu as. En attendant qu'il vienne. Est-ce que nous sommes conscients que nous avons quelque chose? Pas comme la Odyssée qui disait: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Non. Nous avons quelque chose d'une. Tiens ferme ce que tu as. Et qu'est-ce que nous avons? dans un monde où vous voyez la foi en diminution. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, hein? La foi diminue. Et Jésus avait averti que quand il reviendrait, n'est-ce pas, est-ce qu'il trouverait encore de la foi sur la terre? Est-ce qu'il y a des hommes de foi? Des hommes qui ne sont pas accablés par toutes les nouvelles que l'on entend à la télévision, à la radio, ou dans les journaux. Est-ce que vous avez encore la foi à dire, oui, il y a des difficultés, il y a des épreuves, mais j'ai un père qui me dit, parce que c'est Jésus qui nous l'a montré, regardez votre père, il sait ce dont vous avez besoin. Mais le père, est-ce qu'on le connaît? Quand on pense à tout ce qui se passe dans notre cœur, à tous les troubles que nous avons, c'est comme si on n'avait pas de père. Voilà les chrétiens d'aujourd'hui, 1900. Il paraît que c'est encore une erreur, ça fait 1096. C'est une année à l'avance. Alors, je n'ai pas à corriger. Vous voyez qu'on a besoin les uns des autres. C'est pas merveilleux. J'ai un père, parce que Jésus me l'a montré, il dit, mais votre père sait que vous avez besoin de... Regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys de sang. Les oiseaux du ciel n'ont pas de soucis. Et nous, on est rongés par les soucis. Donc, on n'est pas en relation avec le Père. Or, c'est justement ces retraites ici, nous voudrions qu'il y ait une relation vivante avec le Père. Votre Père sait que vous avez besoin de quelque chose. Pourquoi vous mettez bien ici? Pour la nourriture, pour le vêtement, et ce qui arrivera, et pour nos enfants. Oui, c'est difficile d'élever des enfants. Mais pourtant, il y a des promesses dans l'Écriture. Toi et ta maison. On peut prier pour les nôtres qui sont même éloignés, égarés, et savoir attendre, parce que le chrétien c'est un homme qui est dans l'attente. Savoir attendre l'heure de Dieu, il pourra les ramener. Il pourra les ramener. Emparez-vous de ces promesses. Tiens ferme ce que tu as. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons la foi. C'est cette foi que Paul avait prêché aux Thessaloniciens. Et cette foi avait produit des œuvres merveilleuses, comme nous l'avons vu la dernière fois. Tiens ferme ce que tu as. Parce que le monde abandonne la foi. On ne sait plus ce que c'est que la foi. Puis qu'est-ce que nous avons encore? C'est en diminution dans ce monde. Nous avons l'amour. Nous avons l'amour. Mais est-ce que nous connaissons justement l'amour de Dieu? Est-ce que nous pensons à l'amour de Dieu? Est-ce que nous sommes sensibles à l'amour de Dieu? Un amour qui est celui d'une personne qui nous aime, qui nous a tellement aimés qu'elle a donné son fils unique. Est-ce que nous gardons cet amour? Et si nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs, qu'est-ce que nous pouvons avoir pour les autres? L'amour, c'est pas la haine. C'est l'amour. Si l'amour de Dieu est versé dans mon cœur, il me permet d'aimer, non pas parce que j'ai une bonne nature, mais d'aimer de l'amour de Dieu. Et cela nous permet même d'aimer nos ennemis. Parce que la plus grande victoire, c'est qu'un ennemi soit transformé. Et qu'est-ce qui peut le transformer? Que je tue? Non. Pendant la guerre, c'était la guerre de... Parce que je suis quand même un vieux bonhomme. Pendant la guerre de 14 à 18, eh bien, on a connu des vrais enfants de Dieu qui, au front, parce qu'ils étaient au Seigneur et qu'ils avaient pourtant l'avantage et qu'il avait, avec sa baïonnette, qui pouvait percer son adversaire, il a détourné la tête et c'est lui qui a été percé. Et pour quelle raison? Parce qu'il ne voulait pas envoyer dans l'éternité quelqu'un qui n'était pas sauvé. C'est bon, ben lui, ça lui dirait. l'amour. Et vous savez, cet homme s'est rendu compte du geste qu'avait eu ce soldat adversaire. Et donc, il l'a eu tué. Il a pris son portefeuille et il a trouvé la parole et une photo avec toute une famille. Et il s'est converti. Parce qu'il était bouleversé. Mais de ces choses-là, on ne les croit plus. Mais c'est vrai, elles se sont passées. Je ne vous raconte pas une histoire. Vous pouvez être le moyen de salut pour quelqu'un d'autre en acceptant de mourir. Mais pas donner la mort. Ce que l'amour peut faire. Que faire ce que tu as. Alors vous avez la foi qui croit à la puissance de Dieu. Vous avez l'amour. Mais qu'est-ce que vous avez aussi? L'espérance. Et qu'est-ce qu'il est dit au sujet de l'amour? On a dit qu'au sujet de la foi, le Seigneur annonce, est-ce que je trouverai la foi sur la terre quand je reviendrai? C'est une question qu'il pose. Est-ce qu'il y a encore de la foi sur la terre? Et au sujet de l'amour, il nous dit dans le chapitre 24 de Matthieu, parce que l'iniquité ira en augmentant, qu'est-ce qui se passera? L'amour de plusieurs se refroidit. Et vous savez, c'est souvent froid les relations chrétiennes. Terrible! J'ai dit que je ne pouvais pas vous en passer parce que c'est peut-être un peu chaud. Parce que je sais que j'ai eu la grippe. Alors je ne voudrais pas vous la passer. Hein. Mais je vous aime. Et je vous serrerai bien sur mon cœur. C'est pas ça. Mais il y a des choses qui nous indiquent qu'on doit être prudent. On ne veut pas transmettre quelque chose de mauvais. Mais ce qui est vrai, l'amour de plusieurs personnes, on n'aime plus. C'est vrai. On n'entend parler que des divorces. Parce qu'on n'aime plus. J'étais vraiment navré. Ce matin même, j'ai demandé à quelqu'un des nouvelles de sa fille, que je savais être mariée depuis un an. Et la maman me dit, oh, elle est divorcée depuis quelques temps. Voilà, on se marie. Je me disais, pourquoi? Oh ben, son mari l'a trompé. Il avait une petite jeune fille, une belle jeune fille, qui avait une belle profession, une architecte. Ça devient normal. On accepte. Il n'y a plus d'amour. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'amour? Parce qu'on ne veut plus les fiançailles. Et vous savez, les fiançailles, hein, c'était un temps, il n'y avait pas le sexe. Les vraies fiançailles bibliques. On apprenait à se connaître et à se respecter et à se discipliner et à s'aimer. Le sexe, ça venait plus tard, dans le mariage. Et alors, ce n'était pas la comédie du mariage à laquelle on ne peut plus assister quand on est authentiquement chrétien et quand on veut garder la parole. Il y avait d'abord, ce temps de réparation. Et c'est biblique, chers amis. Mais on l'a oublié. Hein. Parce que le monde, mais c'est comme ça, maintenant vous vivre avec son temps. Je vous ai dit, j'avais pris le petit dictionnaire là au sujet de la fornication. Hein. On m'a dit, fornication, c'était pas du tout la relation sexuelle. Et le tillet, pas le tillet, le... Petit Robert, hein, nous dit relation sexuelle en dehors du mariage. On est moderne, ce petit Robert. Hein. Mais non, mais ça, on est tellement pris par tout cela, c'est tout à fait naturel. Hein, vous me direz, vous êtes arriérés? Non. C'est vrai, mes amis. Hein. Les fiançailles, ça nous donnait un temps où on apprenait à se connaître, à t'aimer, à te respecter, qu'on se réjouissait en vue de ce jour où l'on pourrait dire publiquement que l'on se donnait l'un à l'autre. Et c'était quelque chose qui était seul ensemble. Mais maintenant, c'est le sexe. Le sexe, c'est pas l'amour. Alors, il n'y a pas d'amour, parce que c'est le sexe. Le sexe. Les animaux peuvent le faire. Le sexe, oui, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Mais, dans son plan. Alors, garde ce que tu as, la foi, l'amour, et l'espérance. Et cette espérance, est-ce que nous l'avons? Est-ce qu'il y a de l'espérance dans votre cœur? Une espérance qui n'est pas une illusion. Nous allons être plongés dans l'écriture, parce que je ne veux pas que vous ayez mes idées à moi. Et c'est pour cela que le thème que nous allons traiter, c'est de nouveau une question. Comme lors de la dernière retraite, c'était une question, et on va y répondre simplement par la parole. À la fin de cette retraite, vous pourrez dire vous-même à qui sont attribués les miracles, les signes et les prodiges qui précéderont l'apparition du Seigneur en gloire avec tous les siens. Or, on nous dit aujourd'hui qu'il faut beaucoup prier pour qu'il y ait des miracles, des prodiges dans l'Église. Vous avez déjà lu votre Bible? Est-ce que le Seigneur nous a dit que ça se passerait ainsi au début? Si vous êtes un peu biblique, il a envoyé ses disciples pour évangéliser, hein. Et puis il leur a dit qu'il ferait des signes, il leur aurait des signes et des prodiges pour accréditer la parole. Marc chapitre 16, n'est-ce pas? Ces versets que vous connaissez bien. Alors on prend ces versets, on les isole, puis on nous dit que maintenant, dans cette fin d'un âge, il doit, avant l'an 2000, y avoir de grands miracles, de grands prodiges, qui va tout renverser et ramener les gens à la foi. Et c'est ça. Alors on pourra dire au Seigneur, ben maintenant tu peux venir, on a tout fait de boulot. Ça va bien sur la terre. Ça va très bien, nous avons tout arrangé. Hein? Tu peux venir. Le retour en gloire du Seigneur apportera quoi au monde, alors son premier avènement apportait le pardon et la vie, son retour en gloire apportera quoi? Le jugement. Et ça vous devez le savoir. Un jugement qui sera à la mesure des iniquités de l'Église. Oui ou non? Israël a-t-il été fidèle à sa mission? Non. Alors qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Le jugement. Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas encore dépensé pour Israël. Nous y croyons fermement. Mais, qu'est-ce qui est arrivé à l'Église? L'Église a dégénéré de plus en plus. Mais maintenant, non, il faut qu'on restaure l'Église, qu'elle retrouve sa puissance par toute espèce de miracle et de prodige avant que le Seigneur puisse venir. Mais nous allons voir par la parole, non pas des idées de racines, nous allons voir par la parole ce qui doit arriver dans ce monde. Mais malgré tout cela, nous n'allons pas nous désespérer. Nous allons retrouver une espérance vivante, une espérance bienheureuse, et nous l'avons souligné dans notre dernière retraite, c'est l'enlèvement des croyants qui n'auront bientôt plus leur place sur la terre. Est-ce que vous trouvez que vous avez vraiment votre place sur la terre? Que c'est, on est vraiment à l'aise ici-bas. Hein, si vous pensiez être à l'aise ici-bas, je serais inquiet pour vous. Ça, c'est une question de la justice de Dieu. Si vous voulez marcher dans la justice de Dieu,
Vous devez pas être très heureux, même au sein de votre travail, même avec tout ce que vous essayez de faire de bien, de bon, vous sentez que vous n'êtes pas content. Et ça, nous allons le voir. C'est pas moi qui va vous le dire. Mais comme tous ne sont pas là, on va pas commencer tout ça. Hein. On va seulement lire les choses. Parce que, comme je l'ai rappelé lors de notre dernière retraite, pour lire avec bénédiction une épître, il faut la lire entièrement d'abord. On la lit une fois, puis après on la reprend. Et comme ça, vous avez une idée générale. Mais je dirais que il faudrait presque relire la première épître aux Thessaloniciens. Quand on commence la deuxième épître, et qu'est-ce qu'il y avait dans la première? Il faudrait se souvenir de ce qu'il y avait dans la première épître aux Thessaloniciens. Vous dites, oh, mais ça va être long. Non. Faut pas avoir peur. On va lire la seconde épître aux Thessaloniciens, et si vous vous le voulez, vous avez du temps, peut-être, pour lire la première, pour ceux qui n'étaient pas là. Et puis le Saint-Esprit va rappeler à ceux qui étaient là, qui étaient dans la première. Alors, nous nous inclinons dans la prière. Nous ouvrons ta parole, Seigneur Jésus. Et nous te bénissons de savoir que du haut du ciel, tu nous vois et tu nous aimes. Et c'est toi qui nous as souhaité la bienvenue. Et tu nous as demandé de garder ce que nous avons, de tenir ferme. Parce que nous pourrions perdre quelque chose. Et tu nous aimes tellement que tu voudrais nous donner une couronne. Tu voudrais pas que nous soyons juste sauvés, avoir le petit salut, échapper à l'enfer. C'est pas ça que tu voudrais pour nous. Mais tu voudrais nous donner une couronne. Pour que nous puissions la jeter à tes pieds quand nous te verrons. Cette couronne que tu nous as donnée, nous savons bien que nous ne la garderons pas pour nous, mais nous pourrons la jeter à tes pieds. Et nous voudrions être des croyants qui ont une couronne. Non pas qui ont été tellement satisfaits du salut gratuit et qui ne se sont plus occupés que des choses de la terre, que de leur avancement personnel. Seigneur, parle à nos cœurs, par ton nom. Ouvre ta parole devant nous et saisis. Nous faisons la lecture de ce chapitre premier de la seconde épître aux Thessaloniciens. Je crois que vous avez tous la version seconde plutôt. J'ai une version très littérale ici, mais pour que ce soit plus facile pour vous de suivre, nous allons lire dans la version, je pense que vous avez, dans la version seconde. Seconde corrigée. Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Vous voyez, quand il y a la foi, il y a l'œuvre. Hein? Le travail de votre amour. Vous voyez, quand il y a l'amour, il y a un travail. Et la fermeté de votre... Oh, mais excusez-moi, voyez, ça va mal avec la grippe, hein. Et la fermeté de votre espérance. C'était très bien. Comment? Ben, on a commenté si ça vous a donné le goût de la lire ou de la lire. Hein. C'était peut-être pour ça. Mais je ne vais pas l'imposer à tous. Alors, nous reprenons dans la deuxième étude. Et peut-être que vous avez déjà remarqué qu'il va manquer quelque chose. Paul, Sylvain et Timothée. C'est donc les mêmes, hein. C'est très bien. Donc c'est une lettre qui suit de très proche la première, hein. Ils sont encore ensemble. Parce qu'après, on ne les trouve plus ensemble. Pas parce qu'ils se sont séparés et qu'ils ne s'aimaient plus, mais parce qu'ils avaient des tâches différentes. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, mais elle n'a pas changé de nom, qui est en Dieu, notre Père. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Et en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'était un temps difficile. Écoutez, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Donc comment? Être persécuté, c'est une preuve du juste jugement de Dieu? Ça fait partie qu'il avait un bon témoignage. Puisque le monde n'aime pas le témoignage. Alors, vous voyez, d'être persécuté, c'est une preuve du juste jugement de Dieu. Alors, on est réconcilié. Pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Donc, si vous souffrez à cause de votre foi, de votre amour, de votre espérance, c'est une preuve. C'est valable. Car, il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Et c'est nous qui allons rendre l'affliction à ceux qui nous affligent? Jamais. Hein? Mais un jour, vous le savez, Dieu rendra l'affliction à ceux qui vous affligent. À moi la vengeance, dit Dieu. Moi je rétribue. C'est pas notre affaire. Nous nous avons à pardonner. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Vous voyez, il y a deux classes de personnes qui sont bien soulignées. Ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Donc, c'est des gens qui le connaissent, mais qui n'obéissent pas. Alors, attention. Ils auront un châtiment, pour châtiment, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Vous rendez-vous compte? Quand les gens verront les croyants qui seront laissés faire par Dieu, qui auront tout supporté, qui seront laissés faire par Dieu, le monde qui verra cela, verra le Seigneur dans nos vies. Car notre témoignage auprès de vous a été écrit, personne. C'est pourquoi nous aussi, nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous serez glorifié en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour les gens. Il va nous occuper demain matin. Chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. On pourra examiner à fond ce que veut dire le jour du Seigneur. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie. Il y a quelqu'un donc qui doit paraître. Celui qui est venu la première fois, c'était un impie. C'était le Fils bien-aimé de Dieu, l'homme pieux, le mystère de la piété. Mais maintenant, ce qui va être révélé, c'est le mystère de l'iniquité. Le Fils de perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore auprès de vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse sans son sens. Car le mystère de l'iniquité agit déjà du temps de Paul. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il nous a appelés par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous rendez-vous compte? On possède déjà la grâce, hein, nous a fait ça. Mais qu'est-ce qu'il veut nous donner? La gloire. Et pas n'importe quelle gloire. Hein. La gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'elle puisse vous être révélée. Et ça illumine notre vie. Ainsi donc, frère, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues. Vous voyez que c'est le... Paul était d'accord avec ce que le Seigneur nous a dit. Hein. Retenez ce que vous avez. Tenez ferme, je viens bientôt. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné, par sa grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Eh bien, les 12 versets de ce chapitre 2, nous les étudierons demain après-midi, et ces versets 13 à 17, nous les étudierons demain soir, après tout ce écoute. Et nous continuons. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers qui n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il nous affermira. Il vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites ce que vous ferez et que vous ferez les choses que nous vous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la passion du Christ. Que c'est beau. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers quoi qu'il les dirige, vers l'amour de Dieu et la passion du Christ. Quelle passion! Mais le Seigneur est patient parce qu'il voudra voir son épouse auprès de lui. Il attend l'heure. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous voyez, quand on suit la parole et qu'on veut la vivre, il y a des choses qui n'arrivent pas, où on se juge de certaines choses, de certaines tendances. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas de pain. Rendez-vous compte. Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre. Et l'apôtre Paul appelait ça vivre dans le désordre. Qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Et puis, comme nous le verrons, il prétendait, mais le Seigneur va venir, vous devez travailler. C'est pas ça que le Seigneur avait dit. Enfin, attention de ne pas sortir un texte de son contexte. Parce que quand on ne veut pas travailler, on s'occupe de quoi? C'est l'Écriture qui dit de futilité. C'est vrai. Moi, j'aime la parole parce qu'elle me juge, je me dis, comment c'est vrai? Alors, soyons occupés de quelqu'un et non pas de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Pour vous, frères, ne vous lâchez pas sur le dos. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Vous ne regardez pas comme un ennemi, mais investissez-le comme un frère. Et la conclusion, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Notez bien ça. Et de toute manière, est-ce que c'est vrai? Il peut nous donner la paix en tout temps et de toute manière. C'est vrai. Mais c'est cela que nous devons vivre. Et c'est cela que le Seigneur veut pour nous. Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. C'est là ma signature dans toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris pas pour, on écrivait, soi-disant, au nom de Paul. Alors qu'il fallait qu'il y ait un signe, qu'on soit sûr que c'était de lui. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous voilà. Il est moins le cas. Nous avons lu. Un chapitre. C'était long. Mais vous allez voir, vous allez beaucoup mieux comprendre. Maintenant, on va reprendre verset par verset. Mais vous avez l'ensemble déjà. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on étudie. Vous avez tous reçu le petit livre. Et quelques pages que j'ai préparées.